n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain au micro pour Dimanche Politique avec le décryptage de la vie politique en France sur RFI. C'est avec vous, Samuel Jequier, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes directeur général adjoint de Bonafide, un cabinet spécialisé en stratégie d'opinion et qui est aussi un institut de sondage. Trois semaines après son discours sur les finances de la France et le besoin de trouver 40 milliards d'euros d'économies pour le prochain budget, celui de l'année prochaine, François Bayrou lance l'idée d'un référendum. C'est à lire dans le journal du dimanche. François Bayrou y parle d'un plan d'ensemble qui demandera des efforts à tout le monde. Il ne peut réussir si le peuple français ne le soutient pas. Sans cette approbation, rien ne tiendra, dit-il. Aurore Berger est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a enfoncé le clou sur RTL.
On a cette nécessité d'engager un débat direct et franc et honnête. Moi, je vois pas pourquoi on opposerait de manière systématique d'un côté les Français et de l'autre le Parlement. Les députés sont les représentants de la nation et des Français. Les sénateurs sont les représentants des territoires et des élus locaux. Ça n'empêche pas qu'on puisse travailler et avec les parlementaires et avec les Français. Mais on a quand même un enjeu qui est d'interroger les Français en direct sur est-ce que, oui ou non, on est prêt à faire des efforts sur la question de la défense publique.
Parce
que
ça
les concerne quand même très directement. Ils ne sont pas bêtes, les Français. Et ils savent très bien que si on ne réalise pas des économies aujourd'hui, ça veut dire plus de dettes demain ou plus de fiscalité après-demain.
Également dans le camp présidentiel, Nathalie Loiseau, la députée européenne Renew, était l'invitée du 8h30 France Info.
François Bayrou met le doigt sur deux réalités. La première, c'est qu'il y a beaucoup trop de dépenses publiques en France. On est drogué à la dépense publique. Et il y a une composition de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui fait que ce problème ne peut pas être réglé. Donc il essaye de surmonter le blocage de l'Assemblée nationale en s'adressant directement aux Français. Tout ce qu'attend, en tout cas la France insoumise, c'est de faire tomber un Premier ministre. Est-ce que c'est ça dont ont besoin les Français ? Les Français, ils veulent de la stabilité, ils veulent qu'on règle les problèmes, pas qu'on joue au jeu de massacre avec les Premiers ministres les uns après les autres. Ce qui est étrange, c'est le comportement d'une partie de la classe politique présente à l'Assemblée nationale qui a mis la tête dans le sable, fait l'autruche et considère qu'on peut continuer sur la lancée qui est la nôtre, qui est d'avoir autant de déficits, autant de dettes et ne prendre aucune décision courageuse. Oui.
À droite, la réaction de Laurent Wauquiez, qui est maintenant le président des députés LR, sur France 3 à la mi-journée.
Il n'y a pas besoin de référendum pour savoir que les Français en ont assez des augmentations d'impôts. Et la seule chose qu'on demande au Premier ministre, c'est d'avoir enfin le courage de s'attaquer au gaspillage de l'argent public. Et là, ce qui me gêne, c'est qu'on a un Premier ministre qui tergiverse, qui cherche juste à gagner du temps et qui ne décide pas.
Samuel Jequier du cabinet Bonafide. François Bayrou joue-t-il son va-tout ?
En tout cas, on peut évidemment discuter l'idée d'un référendum budgétaire, mais on voit bien que c'est quand même une tentative d'essayer de reprendre la main. Je pense qu'on reparlera dans nos discussions de sa popularité. Et donc, on est dans un classique effet d'annonce. Mais si vous me permettez de reprendre Martine Aubry et sa célèbre citation « Quand c'est flou, il y a un loup », là, il y a quand même quelques loups. C'est-à-dire que c'est une annonce qui n'est pas finalisée, qui est très imprécise, imprécise sur le contenu, finalement, sur quoi va porter le référendum. Est-ce sur l'ensemble du plan ? Est-ce sur quelques mesures ? Est-ce sur le budget ? Sur le calendrier aussi ? Il y a quand même des municipales en mars 2026, donc c'est deux campagnes pas forcément évidentes à articuler, une campagne référendaire et la campagne locale. Donc je trouve qu'il y a de l'impréparation. C'est pour ça d'ailleurs que le référendum est accueilli plutôt avec circonspection, pardon, y compris du côté de l'Élysée. Peut-être un peu agacé qu'ils viennent juste après l'idée d'une convention citoyenne sur les rythmes scolaires et les vacances, parce que ça fait quand même deux annonces un peu de retour au peuple ou de consultation démocratique en 48 heures.
L'Élysée a réagi en rappelant que le Premier ministre propose, mais que c'est le président de la République qui dispose.
Donc on peut pas dire que l'Élysée ait massivement, en tout cas, ou fortement soutenu l'initiative. Donc je trouve que ça fait un peu comme gadget et déclaration un peu impréparée et mal ficelée.
En tout cas, un ballon d'essai, puisque après chaque déclaration, forcément, il y a des commentaires et ça permet peut-être d'ajuster ce qu'il faut faire derrière.
C'est possible, mais je pense que l'époque, avec une opinion défiante, avec une opinion soupçonneuse, demande un peu plus de préparation dans les annonces et un peu plus de finalisation sur leur contenu, leur calendrier, leur méthode, et que là, c'est effectivement un ballon d'essai, mais qui peut vite se dégonfler comme pur effet d'annonce, en fait.
Quant à l'opposition de gauche, elle dénonce, elle, une manœuvre et la confiscation d'une prérogative du Parlement. Éric Coquerel de la France Insoumise, qui préside la commission des finances de l'Assemblée nationale, était sur France 2 à 13h.
Du grand n'importe quoi, je crois qu'il y croit pas lui-même. Voilà, c'est une manière d'occuper le terrain. D'une part parce que techniquement, par essence, un document, un budget, ne peut pas être soumis à un vote oui ou non. C'est un document qui doit être amendable.
Également membre de l'EFI, dont il est le coordinateur national, Manuel Bompard, sur France Info.
Monsieur Bayrou s'est pas réveillé ce matin en disant qu'il allait être démocrate. Et il cherche juste à faire un coup politique, dont je suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde en comprenne vraiment la signification. Si monsieur Bayrou veut être démocrate sur le budget, peut-être la première étape, ce serait de laisser les parlementaires voter. Parce que pour l'instant, les budgets passent par 49-3. Et ensuite, tout le monde voit bien le caractère assez loufoque de cette proposition, parce que quelles questions vous allez poser aux gens? Vous allez leur soumettre un projet de budget, vous allez leur demander s'ils sont pour ou ils sont contre. Mais alors, qui va avoir élaboré ce projet de budget? Monsieur Bayrou lui-même. Donc vous voyez bien que ça n'a rien de démocratique.
Samuel Jequier, est-ce que le Premier ministre cherche à contourner le Parlement et à quelle fin pour écarter un risque de censure?
Bah, sans doute, le projet politique de François Bayrou, et c'est sans doute un de ses problèmes, c'est sa propre survie. C'est-à-dire c'est sa propre survie politique, donc le fait d'échapper à la censure, et évidemment que tout ça génère, en tout cas dans l'opinion, une sensation, une impression d'immobilisme, d'inertie, qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose, avec des effets sur sa cote de popularité. Donc c'est à la fois une tentative effectivement de reprendre la main, d'essayer de peser dans le débat, peut-être de contourner le Parlement, mais je pense que c'est avant tout politique pour contrer l'impression grandissante d'immobilisme absolu de ce gouvernement et de cette équipe.
Et peut-être de s'attirer les bonnes grâces des citoyens français en disant, tiens, bah, on va nous consulter, ça ne sera pas juste des conciliabules des deux côtés de la place de la Concorde.
Je pense qu'il en faut beaucoup plus. Je vous l'ai dit, on est dans un contexte de défiance, on pourra peut-être en reparler, ou des discrédits du politique record, d'une opinion qui décrypte les coups de com' et les tactiques de com', qui décryptent les effets d'annonce. Donc il en faudra beaucoup plus pour recréer du lien et donner le sentiment aux Français qui sont véritablement consultés. Et puis ça a été dit dans ce qu'on a entendu des acteurs politiques, le sujet de la question est quand même très complexe, parce que soit vous présentez un plan de redressement avec la réduction du train de vie de l'État, la réduction des avantages des parlementaires, et alors là effectivement vous aurez un plébiscite, soit vous proposez un plan de redressement avec des hausses d'impôts, là je pense que ça ne passera pas, soit vous faites les deux et ça va devenir compliqué. Donc je trouve qu'effectivement, quand on entend la question et le sujet central, oui ça l'est, et on ne peut pas dire qu'elle était bien préparée. Donc je suis assez sceptique sur les effets de cette annonce.
Tout ça donc suite à l'annonce de François Bayrou, le Premier ministre qui est au plus bas dans l'opinion publique,
oui,
sous la 5e République.
C'est le record.
Le baromètre politique Vérian pour le Figaro Magazine ne le crédite que de 14% d'opinion favorable. Écoutez les explications, la justification d'Aurore Berger, ministre de François Bayrou, justement.
Déjà, ça fait peu de temps que ce gouvernement est en place, et en peu de temps, on a réussi à ce qu'un budget soit adopté pour notre pays, ce qui n'était pas, là encore, une évidence qu'un budget soit adopté. Le Parlement n'est pas à l'arrêt, on voit des parlementaires qui travaillent, et on a un certain nombre de textes et de dossiers qui avancent, et tant mieux. Mais oui, en effet, c'est une période qui est difficile. Et donc moi, je pense que le pire des risques serait de ne pas en prendre. À partir du moment où vous savez que vous êtes soumis à un risque de censure permanent, parce que ce risque, il est permanent, puisque structurellement, nous ne sommes pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il vaut mieux prendre le risque d'être censuré, parce que justement, vous avez fait preuve de courage politique, parce que vous avez assumé de dire les choses sur le moment politique que l'on vit, et sur le moment aussi budgétaire qui est le nôtre.
Voilà, Aurore Berger qui tente d'expliquer la chose. Samuel Jequier, pourquoi le chef du gouvernement a-t-il perdu 11 points en seulement 4 mois.
Alors, vous l'avez dit, c'est quand même pas rien le record d'impopularité sous la 5e République pour un Premier ministre. Il vient de battre Jean-Marc Ayrault, qui était déjà descendu très bas, effectivement autour de 13-14%. Il y a d'abord une raison structurelle, et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ce bloc central, qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée, n'est pas non plus dans le pays, et n'est pas la volonté qui a été exprimée lors des élections législatives. Même s'il n'y a pas la seule volonté qui s'est exprimée dans les élections législatives, c'est le Front Républicain, c'est la seule logique de ces élections. Mais donc là, on a un gouvernement qui n'a, par définition et suite aux élections, peu d'assises déjà dans l'électorat. Et ensuite, je pense qu'il y a une contradiction de plus en plus importante entre des Français qui sont en demande d'action, parce qu'on a le sentiment que les problèmes s'amplifient en interne, au sein du pays, problème de salaire évidemment, problème de sécurité, problème de délinquance, évidemment à l'extérieur avec une actualité internationale très anxiogène, il faut résister à Poutine, la guerre est en Europe, Trump est imprévisible, les échanges commerciaux sont compliqués, donc il y a une opinion qui en demande d'action, qui en demande d'explication, voilà, et ce que je vous ai dit, un gouvernement dont le seul objectif est sa propre survie, c'est-à-dire qui n'a pas d'action, qui n'a pas de volonté de réforme, ou peut-être qu'il est entravé, je ne dis pas que c'est que de l'histoire de la volonté. Et on avait déjà une opinion qui était, j'allais dire, assez convaincue de l'impuissance du politique. Là, c'est une forme de mise en scène permanente de sa propre impuissance. Donc, évidemment, on arrive à des taux de popularité très bas. Et puis, il faut dire que ça avait mal commencé, parce que face, encore une fois, à une opinion très soupçonneuse, très critique à l'égard du politique, quand vous commencez, évidemment, par prendre un avion privé pour aller faire un conseil municipal à la peau, vous ne donnez pas des signes positifs.
Justement, d'une manière plus générale, vous observez, vous, que les responsables politiques sont de moins en moins populaires auprès de leurs concitoyens, et cela année après année?
Exactement. Alors, si on voulait paraphraser Marx, on pourrait dire que c'est la baisse tendancielle, non pas du taux de profit, mais du taux de popularité des leaders politiques. Au sein de l'Institut Bonafide, on a fait un petit travail d'analyse. On a regardé dans les baromètres de popularité, la popularité moyenne depuis 96 de toutes les personnalités politiques. Il y en a entre 30 et 40 dans les baromètres. Alors évidemment, ils changent au fil du temps. Donc droite, gauche, extrême droite et extrême gauche. En 20 ans, un peu plus de 20 ans, un quart de siècle, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, la popularité moyenne a perdu 20 points. Alors que dans le même temps, les opinions défavorables ont augmenté de 20 points. Et alors, pour vos éditeurs les plus âgés, ils se souviendront quand même qu'il y a eu des popularités en France à 60-70%, Ségolène Royal, Jacques Chirac, Bernard Kouchner, Simone Veil. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, le plus haut, c'est Édouard Philippe qui tâtonne avec les 40%. Et pour finir sur un petit effet assez amusant, Marine Le Pen est aujourd'hui en tête, ou dans le tiercé de tête des baromètres de popularité, avec un niveau 35-37 qui est à peu près le même qu'il y a 10 ans. Sauf qu'il y a 10 ans, elle était 12 et 13e parce qu'elle en avait 10 devant elle. Aujourd'hui, il n'y a plus personne devant elle à ce niveau-là.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Dans deux semaines, les militants du Parti Les Républicains désigneront leur nouveau président, celui qui succédera à Éric Ciotti, parti du côté du RN. Deux hommes sont en lice, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et Laurent Wauquiez, le président des députés LR. Celui-ci rappelait tout à l'heure sur France 3 la raison pour laquelle il faut voter pour lui.
Si vous êtes ministre avec François Bayrou, vous n'avez pas la possibilité de vous opposer avec fermeté à François Bayrou. Moi, je suis libre, c'est ma force. Le sujet est de ne pas être contraint par la solidarité gouvernementale. Vous êtes dans une équipe, vous respectez le Premier ministre. Moi, je ne lui dois rien. Quand on est ministre de l'Intérieur, avec l'insécurité en France, vous n'avez pas les moyens de faire autre chose. Et que quand vous voulez tout faire, vous faites tout à moitié. Donc oui, je pense profondément, et c'est ce pourquoi je plaide, c'est ce duo, chacun complémentaire, Bruno au ministère, pleinement engagé sur cette mission, et moi avec ma liberté, à la tête du parti, qui peut mettre la pression sur un Premier ministre qui, malheureusement, sur trop de domaines, ne fait rien.
Alors, une première analyse avec vous, Raphaël Delvolvé, du service politique de RFI. Le dénouement sera connu le 18 mai prochain, et la campagne s'est durcie ces derniers jours.
Oui, dans le camp Retailleau, un proche du ministre de l'Intérieur s'inquiète d'une fin de campagne pourrie par Laurent Wauquiez. Le chef des députés de la droite, challenger de l'élection, multiplie ces derniers jours les coups de pression. Laurent Wauquiez se saisit notamment de l'intense débat budgétaire lancé par François Bayrou, n'hésitant pas à menacer de retirer le soutien du parti Les Républicains au gouvernement si les impôts augmentent lors du budget 2026. Il demande aussi à Bruno Retailleau de s'opposer publiquement à l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. Il veut mettre le ministre de l'Intérieur dans l'embarras, car il est vrai, de par son poste, il ne peut pas se permettre de telles menaces. Mais comme depuis le début de la campagne, il refuse de réagir tout en concédant recevoir des attaques matin, midi et soir. L'entourage de Bruno Retailleau, favori des sondages, répond toutefois hors micro. Laurent est le seul à faire ce genre de menaces. Personne ne le suit en réalité au parti. Une anecdote résume d'ailleurs assez bien l'ambiance du moment à 15 jours du scrutin. La semaine dernière, les deux rivaux se sont croisés pour une séance photo pour un hebdomadaire. Ça a duré 7 minutes 30. Ça n'était ni froid ni très cordial, raconte un témoin.
Et l'autre grande bataille de la campagne, Raphaël, c'est aussi la course aux adhérents. Et là, les deux ont fait le plein.
Oui, on connaît maintenant le nombre de votants potentiels pendant les 24 heures de scrutin en ligne. Plus de 121 600 adhérents, soit quasiment le triple du nombre de cartes qu'il y avait en février, 43 000. L'important se niche dans les détails pour évaluer la capacité de chaque candidat à rallier des soutiens. Laurent Wauquiez a fait le plein chez lui dans la région qu'il a dirigée, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a près désormais de 18 000 encartés. Bruno Retailleau, lui, vient des Pays de la Loire, région moins grande, moins peuplée et donc peu décisive dans le décompte final. Mais il pourra en revanche compter sur l'autre grande région LR, l'Île-de-France et ses 26 000 adhérents. Une large majorité de cadres, notamment de la Fédération de Paris, première du pays, assure que c'est en réalité son véritable bastion. Pas un hasard s'il organise son dernier grand meeting le 11 mai prochain en région parisienne, avec chez ses soutiens la quasi-certitude que le match est plié. Il ne sera pas élu avec 65%, mais pas loin, confie un sénateur. Laurent Wauquiez, lui, continue son marathon avec deux meetings par jour, parfois toute la semaine. Son entourage, même si les sondages disent le contraire, se dit convaincu qu'il va l'emporter, car la campagne des militants, c'est clairement la sienne.
Samuel Jéquier, du cabinet Bonafide, Retailleau Wauquiez, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, pour reprendre une vieille formule politique à droite.
Oui, alors j'en aurais une autre, je pourrais dire, c'est un peu Dupont et Dupont. On voit bien, et on l'a entendu dans l'analyse qui vient d'être faite, que là on en est un peu au chicaillasse, si on voulait reprendre une vieille expression des Chiraciens, et au fond, on ne voit pas trop ce qui les distingue. C'est-à-dire qu'ils ont une même ligne idéologique, celle d'une droite dure, conservatrice, focalisée sur les sujets identitaires. Vous avez remarqué, vous avez sans doute noté que c'est une campagne où on parle très peu d'économie. Très très peu d'économie. Alors quand même, quelques sujets entre protectionnisme et libre-échange qui sont plutôt lourds. On est issu quand même d'une famille politique, le RPR, l'UMP, qui parlait beaucoup d'économie, et que là, donc, on n'en parle plus, et on se focalise sur les enjeux identitaires. Donc une même ligne idéologique, une même stratégie au fond, qui est d'être candidat à l'élection présidentielle et de refaire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire de siphonner une partie de l'électorat d'extrême droite. Sauf que, il faut peut-être rappeler qu'en 2007, le Front National et Jean-Marie Le Pen faisaient 18%, qu'ils en font aujourd'hui le double, et que donc je pense que l'exercice est beaucoup plus délicat aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et puis, effectivement, ils ont deux tactiques. Alors il y a Retailleau qui joue la légitimité gouvernementale, le fait de faire bouger les choses au sein du gouvernement, et puis Wauquiez qui essaye de renverser par une sorte de prise de judo cette fonction gouvernementale en expliquant que finalement il est comptable à la fois du bilan du macronisme et du bérouisme. On a vu ce que les Français pensaient du bérouisme, donc évidemment il surfe là-dessus. Mais voilà, je trouve que ça fait très politique politicienne, très politique aérie, et que je suis encore une fois pas sûr que c'est ce qu'attendent les Français.
Querelle d'hommes donc, et non pas querelle programme. Ce qui prévaut à LR vaut-il aussi pour le Parti Socialiste?
Exactement, par un effet de miroir assez saisissant, c'est-à-dire que les deux partis finalement exsangues de l'élection présidentielle, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à deux ils ont dépassé les 6%, très, très difficilement, nous reproduisent finalement, j'allais dire, deux congrès du XXe siècle, c'est-à-dire deux congrès extrêmement politiciens, extrêmement tactiques, extrêmement partisans. On distingue pas trop les différences idéologiques chez LR, on les distingue pas non plus beaucoup entre Boris Vallot et Olivier Faure, enfin, s'il y en a qui les distinguent, qui m'appellent, parce que je serais ravi de les entendre, ni beaucoup, pas beaucoup plus avec Maillard Rossignol. Donc on est vraiment dans des affrontements d'appareils, des affrontements, voilà, vous l'avez dit, des querelles de personnes, à un moment où je pense qu'effectivement les Français attendraient plus des réponses et une projection sur ce que sont les grands enjeux à la fois politiques, géopolitiques et économiques du siècle. Donc je pense que là, il y a un très fort hiatus, un très fort décalage entre les attentes de l'opinion et ce qu'on leur montre dans ces congrès un peu à l'ancienne et de vieille politique.
Merci pour ces analyses et commentaires, Samuel Jéquier, directeur général adjoint de Bonafide, cabinet spécialisé en stratégie d'opinion et qui est aussi un institut de sondage. Ravi de vous avoir accueilli pour la première fois dans Dimanche Politique.
Ravi d'avoir été ici avec vous.
On espère vous revoir
avec plaisir
bientôt. Dimanche Politique, réalisé ce soir par Olivier Roux et que vous pouvez retrouver bien évidemment sur l'appli et sur le site internet de Radio France Internationale.